RMC, 13h-14h, Motors.
Comme chaque dimanche, l'actu automobile avec Motors. Salut Jean-Luc Roy.
Eh ben salut Julien, ça va ?
Comment ça va ? Super, super. On va revenir, hein, Jean-Luc, sur le Grand Prix d'Autriche.
Oui.
Comment il y a encore des questions qui se posent, hein, une semaine après. Ça a été l'un des climax de la première partie de saison. Comment Verstappen a fait pour revenir ? Comment il a dépassé Leclerc ? On en parlera avec Jean-Pierre Jabouille. Il y a quelques jours, on fêtait les 40 ans de sa victoire à Dijon. Juillet 79, c'était aussi la première de Renault. On se projettera sur le Grand Prix moto d'Allemagne qui débutera à 14h. Fabio Quartararo s'élancera en première ligne sur le circuit de... Là, je compte sur toi, Jean-Luc, pour
Sachsen
venir.
Saxenring.
Ouais, tu penses à Sax
et tu fais Enring derrière.
Saxenring. Je voulais être sûr qu'on prononce bien comme ça. Oh, l'allemand à l'école, c'est loin pour moi. Le phénomène Quartararo, on en parlera avec l'ancien pilote, ancien vainqueur des 24 heures du Mans, Philippe Bonneret, Quartararo, et aussi bien sûr Marc Marquez, dont ce sera la énième pole sur ce tracé. Dixième, Jean-Luc, hein, c'est ça ?
C'est ça.
Oh, allez, dans le rétro pour commencer, go. On revient sur le Grand Prix d'Autriche.
RMC Motors dans le rétro.
Jean-Luc, on va accueillir une légende. Jean-Pierre Jabouille, bonjour Jean-Pierre.
Oui, bonjour, la légende est là.
La légende est là, merci d'être avec nous dans Motors sur RMC. 55 participations en Grand Prix, 2 victoires, 2 podiums. On va parler de ça tout de suite, Jean-Pierre, parce que parmi tes 2 victoires, il y a le Grand Prix de France à Dijon. C'était le 1er juillet 1979. C'était le premier succès de Renault en Formule 1. Ça a été un moment fabuleux. Jean-Pierre, quel souvenir tu en gardes 40 ans après ?
J'en garde un super souvenir. J'ai l'impression, en plus, que tellement je connaissais tout l'ensemble, que c'était hier. Mais rapidement, quand on pioche un peu plus, on se remet à l'évidence que depuis ce temps-là, il est passé 40 ans. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on a battu les Anglais avec notre moteur turbo, où tout le monde, les Anglais en particulier, ne pensait qu'on n'y arriverait jamais. Et franchement, moi, j'ai travaillé énormément sur ce projet et je savais que ça allait être long. Mais par contre, j'étais sûr qu'on allait y arriver.
C'est une victoire 100% française avec une voiture 100% française. Et en plus, je gagne en France. Hein, c'est ce que tu avais dit à l'époque lors de tes premières interviews post-course. Jean-Luc, ça avait été une sacrée course parce qu'il y avait Gilles Villeneuve qui était en tête, hein, jusqu'au 50e tour à peu près. Et c'est à ce moment-là que Jean-Pierre l'a attaqué et a dépassé la Ferrari de Gilles Villeneuve.
Ah ben c'était une victoire absolument légendaire et comme l'évoquait Jean-Pierre il y a un instant, en fait c'était un défi complètement fou puisque la réglementation de la Formule 1 à l'époque, tu sais qu'elle évolue évidemment techniquement régulièrement, eh bien en fait le moteur turbo était autorisé mais il avait la moitié de la cylindrée des autres moteurs qui faisaient 3 litres. Là il fallait venir avec un 1500 cm3, ce qui était un tout petit moteur. En plus, chez Renault, on avait choisi le V6, c'est une disposition, donc un 6 cylindres en V, avec un turbo, et les turbos à l'époque, ça procurait de la puissance, mais c'était extrêmement violent. C'est pas Jean-Pierre qui me dira le contraire, ça veut dire qu'on avait pratiquement pas de chevaux, et d'un seul coup débarqué pas loin de 1000 chevaux déjà à l'époque, donc c'était extrêmement difficile à maîtriser. Et Jean-Pierre, je sais que c'est un défi technique comme tu les aimes, hein, parce que tu es un technicien, et les Anglais, on parlait il y a un instant aussi, avaient surnommé la voiture le Yellow Teapot, c'est-à-dire avec l'humour qu'on leur connaît, c'est-à-dire la théière fumante jaune, c'est bien ça. Hein.
Oui, c'était les Anglais, Ken Tyrrell, qui l'avaient surnommé comme ça, parce que effectivement, au début, on rentrait souvent au stand avec le moteur qui fumait, parce qu'il y avait un piston qui avait lâché ou des choses comme ça. Et donc, il a fallu travailler beaucoup, pas tellement un petit peu sur le temps de réponse, mais aussi sur la fiabilité du moteur, parce qu'on était les premiers à faire beaucoup de choses pour tout le monde. Après, petit à petit, les gens ont copié. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le monde entier a repris cette chose-là pour les voitures de série.
Jean-Pierre, tu as retrouvé il y a quelques jours au circuit Paul Ricard ta Renault de 79. Tu as fait plusieurs tours avec. Quelles ont été tes sensations à ce moment-là ?
Surpris que ça pousse autant. Et puis, il y avait un pas mal de temps de réponse sur cette voiture, parce que plus personne... Renault l'a refait complètement à neuf, mais il y a des petits réglages qui font la différence. Ben, je ne les ai pas fait donc, parce que ça ne servait à rien. On n'allait pas là pour faire de la course. On allait là pour montrer cette voiture 40 ans après, comment elle est. Les gens étaient ravis.
Et tu étais en famille hein, avec Victor et Pierre, hein, tes enfants qui n'étaient pas nés en 79. Alors forcément, il y avait un petit peu d'émotion, j'imagine, pour eux aussi.
Ah bien, oui. Ils découvraient un peu leur papa capable de conduire à cet âge-là une voiture comme ça. Ça a surpris et ça a surpris un peu de monde. Mais voilà, je connaissais tellement l'ensemble. On parlait tout à l'heure du circuit. Bon, il a évolué super, le circuit, c'est le cas de le dire. Mais c'est toujours le Ricard. Et puis, les évolutions techniques, il n'y en avait pas spécialement. Non, je roulais gentiment. Mais mon problème, c'est quand je monte dans ces voitures, ou dans celle-là en particulier, elle donne envie d'attaquer. Quoi. Ah. C'est ça mon problème. Moi, il faut que je me dise, allez, doucement.
Non, Jean-Pierre, on va revenir. Tiens, justement, j'ai revu quelques images ce matin en préparant l'émission de ce Grand Prix de France à Dijon en 79. Ta victoire fait aucun doute. Et derrière toi, il y a René Arnoux, volant de sa Renault, lui aussi, et Gilles Villeneuve, qui se livrent un combat énorme hein, pour la deuxième place, hein, Jean-Luc. Hein. Arrête-moi si je me trompe. Ah, ça faisait penser un petit peu au finish de la semaine dernière en Autriche.
Bah complètement, écoute, c'était une époque où tu vois, on va y revenir, on va en parler évidemment de cette polémique ou non polémique. En tout cas, bah à l'époque les pilotes ils attaquaient en piste en plus avec des machines qui étaient infiniment moins sécurisées qu'elles le sont. Les circuits c'était pareil. Bon, Dijon, il figurait parmi les meilleurs, on va dire. À l'époque, c'était un circuit dit moderne, un circuit vallonné, très tourmenté où le pilotage avait la part belle, et justement même pour Jean-Pierre, je pense triompher d'abord en France comme tu l'évoquais il y a un instant Julien. Et comme tu le disais, Jean-Pierre, c'était quand même quelque chose avec une voiture entièrement française, des pneus français en plus, hein, puisqu'à l'époque, Michelin était en Formule 1, et c'était sur un tracé incroyable. Alors, pour revenir à la question de Julien, Jean-Pierre, c'est vrai qu'il y a eu ce baston absolument démentiel que tu n'as pas vu. Toi, c'est le paradoxe, hein, ouais. Jean-Pierre. Toi, tu l'as découvert sur les images après, évidemment.
Ben oui, moi j'étais concentré pour gagner la course, ouais. Donc je risquais pas de me déconcentrer, et donc... quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il y avait une animation. Oui. Je me suis un peu renseigné et c'était la bagarre, Arnoux et Villeneuve. Et puis, ce qui est con, c'est qu'on aurait pu faire le doublé, mais voilà, ouais. J'étais trop loin devant et donc c'était pas possible. Mais ça aurait pu être quand même possible si René il s'est fait piéger dans la montée. Et il s'est fait passer par Gilles, ouais. Qui, franchement, sur la performance qu'il avait fait avec un moteur, lui, atmosphérique, eh bien, c'était super. Mais à partir de ce moment-là, les constructeurs se sont penchés énormément sur le problème du moteur turbo. Et tiens. Et je vais vous donner une petite chose pour vous rendre compte que le travail, ça paye. Eh bien, la personne, c'est là. Qui s'est qualifié avec une voiture qui avait 1500 chevaux. Voilà, ouais. Avec un moteur 1500. C'était rien de l'impression. C'était au bout d'un tour, le moteur il était mort. Mais c'était 1500 chevaux avec un moteur 1500, ça veut dire 1000 chevaux. Et ça, Renault, ils ont été exceptionnels.
Ah ouais, avec l'équipe de Bernard Dudot, hein, on s'en rappelle, c'est le motoriste qu'on salue d'ailleurs, il doit écouter Motors, il l'écoute très souvent, qui était à l'origine du développement et de ce pari fou. C'est vrai que c'était dément, Julien.
Ouais. On va revenir, après avoir évoqué justement en transition, tout trouvé ce duel entre Arnoux et Villeneuve sur ce qui s'est passé la semaine dernière en Autriche. On pensait que ce Grand Prix allait revenir au Monégasque Charles Leclerc et à sa Ferrari, mais à deux tours de la fin, il s'est fait dépasser par la Red Bull de Max Verstappen. On va vous faire réagir là-dessus, Jean-Luc et Jean-Pierre. Max Verstappen qui a réussi in extremis à conserver son titre avant cela. On va l'écouter. Donc c'était la semaine dernière après la course. Comment il l'avait vécu, lui, cette course ?
Pas trop mal. J'ai eu un problème de pneu sur mon premier relais. Après l'arrêt au stand, j'avais l'impression de voler. Nous avions un très bon rythme sur la ligne droite. Je suis bien sûr très heureux pour toute l'équipe, pour Honda. Nous avons commencé à travailler seulement depuis 7 années ensemble. Et gagner ici, c'est incroyable.
Jean-Luc Roy, on voulait du spectacle. On en a eu finalement la semaine dernière en Autriche. Quelle leçon t'as tiré de ce Grand Prix, toi ?
Écoute, à reproduire évidemment le plus rapidement possible et dès Silverstone si c'est possible. Alors on va entrer dans le vif du sujet. Bon, la polémique, elle est née évidemment de ce dépassement un peu rugueux, un peu viril, mais on en avait vu tellement à l'époque. Hein. Jean-Pierre me contredira pas. C'était normal. C'était tant qu'il n'y a pas la mise en danger entre guillemets de l'autre pilote, surtout à l'époque hein, où c'était extrêmement dangereux. Les voitures, je le répète, étaient beaucoup moins sécurisées qu'aujourd'hui. Il y avait pas le halo évidemment. Il y avait pas toute la structure des formes. Les pilotes étaient placés très à l'avant de la monoplace, donc dès qu'ils tapaient, malheureusement, ils se faisaient mal aux jambes, et malheureusement, Jean-Pierre le sait lui aussi, et a payé l'addition au Canada à l'époque. Donc bref, tant que les pilotes se battaient en piste et qu'il n'y avait pas de manœuvre qui était délibérément dangereuse, eh bien, il n'y avait pas de problème. On ne se posait pas la question de savoir si on allait pénaliser un tel ou pas le pénaliser. Alors, pour revenir au déroulé de la course, et je sais que Jean-Pierre analyse tout ça avec beaucoup d'acuité, en fait, la clé, elle a été dans l'arrêt au stand, parce que maintenant, Jean-Pierre, à ton époque, c'était déjà le cas, mais plus que jamais, la clé, ce sont les pneus. Et comme l'a dit Verstappen, bah, quand tu maintiens tes pneus en vie, entre guillemets, jusqu'au bout, et bah, tu parviens à remonter sur les autres.
Jean-Pierre, comment tu l'as vu ce finish? Comment tu l'as vécu?
Je l'ai vécu comme une bagarre qui, pour moi, m'a paru tout à fait logique et normale. Et pour moi, si on commence à pénaliser ce genre de choses, il faut faire autre chose que de la Formule 1. Voilà. C'est déjà, avec Vettel, il y a eu une erreur. Une erreur, ça veut dire que on a sanctionné Vettel, alors qu'en fin de compte, c'est lui qui a évité qu'il y ait un crash qui aurait pu être méchant. Donc, là, on l'a sanctionné. On ne sait pas pourquoi. Je ne sais même pas qui décide de ça. Mais c'est inadmissible. Ces gens-là ont dans les mains une victoire. Et quand on sait ce que c'est que gagner en F1, c'est très, très dur. Voilà. Et là, d'un seul coup, on décide, on sort du chapeau. Cette histoire-là, en Autriche, c'est normal. Ce qui a été dit est normal. Mais avec Vettel, c'est une honte.
Et voilà, la pénalisation de 5 secondes qui l'a privé de la victoire au Canada, on le rappelle.
Hein. Et Charles Leclerc, lui, qui s'est fait dépasser à 2 tours de la fin alors qu'il entrevoyait la victoire, était énervé, il le dit lui-même.
Ah, oui, mais on est énervé, on n'a qu'à gagner, il a tué personne, donc voilà, il ne faut pas charrier non plus.
On va l'écouter, Jean-Pierre, on va l'écouter, puis on réagit juste derrière.
Énervé de la voiture, je sais ce que l'impression que j'avais après l'extérieur, j'ai pas encore vu les images de l'extérieur, donc voilà, déçu, mais c'est comme ça, je sais pas, je crois que les sueurs sont en train de regarder à l'accident, on verra ce qu'ils en pensent.
Bon, on peut comprendre on peut comprendre la frustration en tout cas de Charles Leclerc.
Oui, mais parce que Charles Leclerc, il est dans une autre ère de la Formule 1. Là, depuis plus de 20 ans, il n'y a pas eu un mort, à part Jules Bianchi, mais qui n'a rien à voir, un mort en F1, ou même un accident très grave en F1.
Voilà. Depuis Ayrton Senna et Roland Ratzenberger.
Ça veut dire que nous, je ne dis pas que c'était bien.
Vous étiez plus en danger.
Nous, c'était un, voire deux pilotes qui étaient esquintés après un Grand Prix. Nous, on savait que c'était très dangereux, mais notre passion nous dépassait. Maintenant, dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, mince, et laissons faire les pilotes. Bah, forcément, on ne peut pas faire n'importe quoi, mais là, ce n'est pas du n'importe quoi. Et souvent, c'est à l'opposé de ce qu'on devrait prendre comme décision. Pas normal.
Tiens, on va en parler des décisions et du règlement F1 2021 dans un instant, Jean-Luc Roy. Mais juste une petite question. Leclerc versus Verstappen, ça peut être le début d'un grand duel, ça, pour les mois, les années à venir?
Ben c'est clair, c'est ce que d'ailleurs ils ont dit tous les deux. Ils se connaissent très très bien. Hein. Il faut rappeler qu'ils ont le même âge, ils ont 21 ans, ils se sont battus depuis le kart, donc depuis le karting, ils se connaissent par cœur. Et des manœuvres comme ça, je pense qu'ils en ont effectué tous les deux à divers niveaux de leur carrière dans le sport automobile. Le problème, pour mieux expliquer l'attitude de Charles, et sur le coup, en commentant le Grand Prix, évidemment, en direct avec Adrien et avec Lucas, on a dit on espère qu'il n'y aura pas de pénalité. Mais vu ce qu'on a, ce à quoi nous avons assisté au Canada, que rappelait Jean-Pierre, parce que c'est le règlement qui est mal fait, en fait. Le problème, il vient de là. C'est-à-dire que maintenant, les pilotes n'ont juste le droit de se regarder, mais dès qu'il se frictionne un petit peu, hop, il y a une sanction qui tombe. Alors là aussi, Jean-Pierre évoquait le cas du pilote qui est représentant, c'était Emanuele Pirro, un excellent pilote italien qui a gagné plusieurs fois Le Mans, qui a été en F1, et qui était au collège des commissaires. On peut être certain que Pirro, il n'était pas pour la sanction, en l'occurrence, et je parle du Canada, encore une fois, mais que le collège des commissaires sportifs l'a impacté, cette sanction de 5 secondes, qui a privé donc Vettel de la victoire. Donc dans cette logique, pour Charles Leclerc, un dépassement comme celui-là, il ne respecte pas le règlement. Alors je pense que sur le fond, il a raison, bien évidemment. Après, lui, ce qu'il aime, c'est se battre, comme tous les pilotes, et Jean-Pierre le rappelait. C'est le règlement qui est mal foutu, pour être très clair.
Alors, on se pose la question, dans Motors, sur RMC, on est ensemble jusqu'à 14h, de savoir si le règlement est adapté. Il y a le règlement F1 2021 qui va être publié en octobre. C'est bien ça, Jean-Luc. Il aurait déjà dû être publié, mais on a repoussé sa publication.
Écoute, on l'espère. Ouais. Parce que là, ça devient... Écoute, on dirait le monstre du Loch Ness. Ça, on en parle depuis des années.
C'est
un règlement très important, mais comme ils n'arrivent pas à se mettre d'accord entre les constructeurs, les écuries, la fédération, Liberty Media et les pilotes qui ont maintenant voix au chapitre, parce que ça y est, ils l'ouvrent, et tant mieux là aussi, parce que on sera toujours du côté des pilotes. Eh bien, Lewis Hamilton a commencé à donner son point de vue, et j'espère qu'on va l'écouter.
Alors, il y a eu des fuites au bac, et il y a des fuites ici aussi. On sait ce qu'il y a dans ce règlement 2021 déjà ou pas? On a quelques points.
Alors écoute, il y a tellement de points, je parlais de technique et de sportif. Alors là on parle du sportif, c'est-à-dire effectivement quel doit être le comportement des pilotes en course. Je peux te dire que l'attitude des pilotes, Jean-Pierre vient de le dire, et puis c'est celle à la fois de Verstappen et de Leclerc, qu'on les laisse se battre. Tant qu'il y a une manœuvre qui n'est pas dangereuse, pas de sanction. C'est aussi simple que ça, parce que sinon on n'en sortira pas.
Voilà. Jean-Pierre, tu es évidemment d'accord avec ça?
Oui, évidemment. C'est eux, il faut laisser ces gens-là faire ce qu'ils savent très bien faire, et ils se rendent compte des quand c'est trop grave, ils n'y vont pas. Moi, j'ai vécu des périodes où nous, on était un peu plus fous, mais là, tant mieux, c'est quelque chose comme ça. Mais qu'est-ce que vient faire en plus quelqu'un des personnes qui jugent à travers des critères qui ne sont pas obligatoirement bons? Donc, laissons plus de liberté aux pilotes.
Le prochain règlement, Jean-Luc, doit être publié en octobre. C'est bien ça, il aurait en fait déjà dû être publié, mais est-ce qu'on repousse pas sa publication pour que les grosses écuries n'aient pas le temps de préparer ce changement, en quelque sorte, pour qu'il y ait une équité?
Écoute, le problème, c'est qu'il est impossible de concilier les points de vue des écuries les plus faibles. On va parler de Williams ou de Racing Point, par exemple. En bref, tout le monde, à part les trois gros, c'est-à-dire évidemment Mercedes, Ferrari et Red Bull, eux ne veulent rien changer, je te la fais très simple, parce qu'ils dominent, et surtout Mercedes, donc ils disent on ne touche à rien, on reste comme ça, y compris le moteur, qui est pour moi une erreur, et je le redis fondamentalement, Jean-Pierre qui est un technicien, depuis 2014, on a voulu mettre de l'écologie là-dedans, et il faut pas bloquer le progrès, la question n'est pas là, et de l'hybridation, mais pas au détriment de la performance. Maintenant, ces moteurs sont des usines à gaz, et les gens de Mercedes ont tellement bien travaillé que les autres ont du mal à revenir, même si on voit que ça va un peu mieux du côté de chez Ferrari, un peu mieux du côté de chez Honda, qui a remporté une victoire depuis 2006, en toi compte, et puis un petit peu mieux du côté de chez Renault. Donc, comme je le disais, ce règlement, il est tellement complexe, l'aspect technique, il y a les pneus aussi, bon sang, parce que ces pneus, c'est un facteur fondamental.
C'est primordial.
Voilà. Et là, pour le moment, on demande à Pirelli de faire des pneus en bois, donc ils font des pneus en bois, je me trompe pas, Jean-Pierre.
Pas des pneus en bois, mais ils sont pas obligatoirement très, très, très ciblés, pour la bonne raison, c'est que souvent, ils se dégradent pour pas grand chose, et donc, tout de suite, les pilotes et les ingénieurs sont un peu perdus. Cette année, là, depuis le début de l'année, Ferrari a fait quelques erreurs quand même,
Il faut. Ouais.
Donc, voilà. Les pneus, il faut savoir les gérer. Mais est-ce que c'est important de savoir les gérer? Ils ont qu'à faire des pneus qui font la moitié de la distance, et puis c'est pour tout le monde pareil. Mais là, ils font des pneus ciblés qui souvent sont demandés par les constructeurs, parce que ça range un peu leur soupe entre eux, vous voyez. Donc c'est compliqué d'arriver mais à voir tout. Mais là, en l'occurrence, c'est clair comme de l'eau de roche. Comment il s'appelle? Vettel devait garder ses... On ne devait rien faire. S'il y avait quelque chose à faire, c'était lui donner les 5 secondes. Et Verstappen, normal aussi, il avait des pneus qui étaient frais, on ne sait pas
qui étaient en meilleur état, qui avaient 10 tours de moins.
Qui permettent de remonter, alors que la Ferrari était à l'arrêt, quoi. Voilà. Donc, mais tout ça, chacun défend sa petite paroisse, mais c'est le spectacle, voilà. C'est l'ensemble qu'il faut penser, parce que là, moi j'aime bien les gens de Mercedes, mais ils contrôlent la F1 là, pour l'instant. Ils contrôlent la F1.
Et même pour eux, c'est pas bon.
Bah non, parce que franchement, si les spectateurs vont pas aller voir.
Bah, un défilé de Mercedes, bien sûr.
Mercedes qui bat contre Mercedes.
Ah oui, oui, oui. Bon, Mercedes n'a pas gagné, en tout cas, c'était une première cette année.
Ah, c'est une première, la semaine en 2019. Dernière.
Merci beaucoup, Jean-Pierre.
Merci, Jean-Pierre.
D'avoir été avec nous.
Merci
infiniment et bon dimanche à toi et à très bientôt dans Motors sur AMC.
Salut,
bon dimanche.
Salut,
Jean-Luc, nous, on va continuer dans un instant avec la moto. Et si Quartararo gagnait son premier Grand Prix moto aujourd'hui, tu y crois?
Ah ben, hein, pourquoi pas? Puis là, il n'y a pas de consigne. Tu peux te dire, ils peuvent envoyer du lourd. Là.
Allez, on en reparle dans un instant sur Motors, le tour de chauffe avec le Grand Prix de Sachsen. Oh, j'arrive toujours pas à le prononcer.
Sachsenring.
Ah, heureusement que t'es là, Jean-Luc. Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 13h-14h, Motors.
Jean-Luc Roy, toujours là. Jean-Luc, oui.
Oui.
Ah bah oui. Oui, toujours là. Sachsenring, ça y est.
Bien sûr.
Je me suis entraîné pendant la
course. Voilà, t'es bon.
On est au centre-est de l'Allemagne, on n'est pas loin de la frontière tchèque pour ce Grand Prix d'Allemagne qui débutera dans 32 minutes à 14h. C'est le 9e Grand Prix de la saison. Marc Marquez est en tête du classement des pilotes. 4 victoires en cette saison 2019 pour lui. Et il y a Fabio Quartararo, le jeune français, qui est 6e du classement des pilotes. On va parler de ce Grand Prix d'Allemagne également avec toi, Jean-Luc, bien sûr, avec Philippe Honneray, le docteur qui est avec nous, légende de la moto. Bonjour Philippe Honneray, merci d'être avec nous.
Oui, bonjour, comment ça va?
Bah, super.
Salut Philippe.
Super, merci. Merci d'être avec nous dans Motors. On va faire le tour des questions à se poser avant la course. Messieurs, Marc Marquez, quintuple champion du monde et leader du classement et le grand favori. Il s'impose tous les ans depuis 2013. Il partira en pole, sa 56e. Dis donc, il n'est pas loin du grand record de Michael Doohan. Non, c'est 58, Doohan?
Jean-Luc? 58 pour...
Ouais.
Pardon.
Oui, Philippe.
Vas-y, 58, Philippe. Hein.
Ouais, 58 pour Doohan de Paul, vous voyez. Donc il va battre largement le record. Il est tout jeune encore, Marquez.
Il peut le battre cet été et puis écraser, pulvériser ce record, effectivement, d'ici la fin de sa carrière. Est-ce que c'est indiscutablement le grand favori de ce Grand Prix d'Allemagne cet après-midi?
Alors, effectivement, déjà, c'est un circuit qui tourne à gauche. Lui est extrêmement fort quand ça tourne dans ce sens-là. Il a quand même réalisé 10 pôles sur ce tracé les 10 dernières années et 9 victoires. Donc, on voit mal. Il n'y a que lui qui peut se battre lui-même en faisant une erreur.
Oui, donc la seule chose, oui, voilà, une erreur de course, hein, Jean-Luc, c'est la seule chose qui peut coûter la victoire à Marc Marquez aujourd'hui.
Ben bien sûr, il a un truc en plus. C'était le cas également. C'est le cas à Austin, aux États-Unis. On se souvient que sur ce nouveau tracé, il était imbattable et il n'avait jamais été battu. Et puis, pour illustrer exactement ce que disait Philippe, eh bien, il a commis l'erreur. Il était en tête. Il avait, pas une avance énorme, mais il s'est géré ça très bien. Il avait 2,5 secondes, 3 secondes. Et puis, excès de d'honneur. Enfin, il en a mis un petit coup de trop. Il s'est retrouvé par terre et il a perdu les 25 points de la victoire. Et ça, crois-moi, si on les rajoutait, faut jamais faire ça. Mais bon, au championnat, comme tu le disais, il a 160 points. Et derrière, on retrouve les Ducati de Dovizioso avec 116 et Petrucci avec 108. Donc, je te laisse imaginer l'écart. Non, c'est vraiment l'homme fort. Il est exceptionnel, ce Marquez. Et puis, sur ce tracé, Philippe, je ne sais pas ce que tu en penses, qui est un petit tracé vraiment vallonné, qui est délicat, hein, et qui ressemble. Tiens, on parlait de Dijon avec Jean-Pierre Jabouille. Je ne sais pas si tu entendais, que tu connais très bien, qui est un copain à toi, évidemment, il y a un instant. Bah, ça ressemble un petit peu à Dijon, hein, dans le genre.
Très rapide.
Oui, rapide, mais petit quand même, 3 km 10, avec plus de dénivelé encore que Dijon, et puis des virages aveugles, c'est ça aussi. Mais ça fait peur, hein, ce circuit en MotoGP, parce que c'est difficile d'aller à la limite. On a vu hier la chute de Petrucci, on parlait des Ducati à l'instant, elles sont pas très très rapides, hein, sur ce tracé. Donc pour le championnat, si jamais Marquez arrive une nouvelle fois à gagner, il va creuser un trou énorme.
Ouais, en plus, ses rivaux de Ducati sont loin, hein, sur la grille de départ. Andrea Dovizioso partira 13e seulement.
Ah oui. Donc, et oui, il n'a pas réussi à se qualifier du bon côté. On sait que le système de qualif en MotoGP, c'est un peu particulier. Il y en a 10 qui sont directement, qui ont accès à la phase 2 des qualifications. Et on en récupère 2 en Q1 et lui était en dehors. Et le pauvre Danilo Petrucci, qui a été confirmé donc chez Ducati, c'est la bonne nouvelle pour lui. Bah, il s'est mis une boîte sérieuse, là, plus de 200, et on a eu un peu peur pour lui.
Hein, c'est une drôle de semaine hein, pour lui, du coup. Marc Marquez a dit que la météo pourrait jouer un rôle parce qu'on annonce plus frais aujourd'hui. Selon Marquez, ça pourrait jouer. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, Philippe, toi, pour commencer.
Eh ben, on a vu qu'au warm-up, c'était sur une piste très délicate. On a vu Johann Zarco aller à la faute, d'ailleurs. C'était compliqué, de toute façon. Je pense que là, ça va être mieux pour le Grand Prix. Mais effectivement, des températures différentes par rapport à hier, donc on peut avoir des légères surprises, mais je pense que quand même Marquez, coûte que coûte, va être intouchable. Ça va être compliqué quoi pour les autres.
Jean-Luc, on a déjà vu ça, des changements de météo qui changent la physionomie de la course entre un samedi et un dimanche.
Oui, bien sûr. Ben, de toute façon, là aussi, il n'y a pas de secret, les grands pilotes savent s'adapter. Et puis, ça s'applique évidemment à tout le monde. Donc, le choix pneumatique, il va être très important entre les pneumatiques. Là aussi, l'accord entre l'avant et l'arrière, selon la manière de piloter. On a vu pas mal de décrochages du pneu avant. Justement, il l'évoquait il y a un instant, Philippe. Petrucci, c'est le pneu avant qui a décroché. Donc là, le pilote ne peut rien faire. Autant quand il y a une glissade de l'arrière, on peut... Pardon ?
Sauf Marquez.
Oui, parce que lui, il met le coude par terre. Oui, t'as raison.
C'est ça qui est incroyable.
Sauf Marquez qui se récupère parfois avec le coude, ce qui est absolument ahurissant. Ouais, c'est vrai que c'est incroyable. Mais bon, je disais en un mot, bien sûr, la température, ça va influer. Quand on répète toujours, hein, les machines développent environ 300 chevaux. Maintenant, faut voir ce que c'est. Et 300 chevaux, ça passe sur le format d'une carte de crédit au sol. Donc tu imagines un peu la sensibilité qu'il faut et le mot est faible.
On évoque dans RMC, sur RMC, dans Motors. On est ensemble jusqu'à 14h. Ce Grand Prix d'Allemagne, 9e Grand Prix de la saison qui s'élancera à 14h, Marc Marquez est indiscutablement, selon vous, Jean-Luc Roy et Marc, et vous, selon vous deux, Philippe Bonneret et Jean-Luc Roy, le grand favori de cette course. Tiens, Philippe Bonneret, pourquoi on vous surnomme le docteur? Je l'ignore. Alors,
Je sais pas pourquoi, mais pour moi, c'était Rossi, le docteur.
Bah oui, normalement. Philippe, c'est le magicien, mais c'est pour d'autres raisons.
Le magicien, le docteur, c'est le choix.
Non, rien, je te dirais, même sous la torture, je ne parle pas.
On imagine que tu le sais, Jean-Luc, mais qu'on peut pas le dire à l'antenne, c'est ça.
Écoute, Philippe est un type formidable qui a touché un peu à tout.
Qui a appris à faire de la moto à tout le monde en fait.
Écoute, il a appris à tout le monde et il continue à enseigner justement la moto. Il a cette passion de la moto chevillée au corps. Il a, je le disais, remporté. Il a participé à quelques grands prix, mais c'est un pilote qui est un pilote malin, beaucoup de sensibilité, qui a gagné les 24 heures du Mans et donc il connaît la psychologie des pilotes. Voilà, c'est pour ça que, en plus, c'est un avis. On va peut-être en venir, si tu veux bien, Julien, à Quartararo.
Moi, j'aimerais avoir ton avis, Philippe, sur Quartararo. Il est parti en pole le week-end dernier. Il partira cette fois en troisième position sur la grille. Bon, il recule un tout petit peu. Déception ou c'est encore une belle performance pour ce jeune niçois
de 20 ans? C'est une énorme performance encore. C'est une énorme performance de sa part. Il s'est fait mal à l'épaule hein, sur un guidonnage.
Ouais. L'épaule gauche.
Il a été remis. On va voir ce qui. Il a été opéré aussi du syndrome des loges. Donc, il a un bras avec un problème.
Il a ironisé là-dessus. Il a dit ça y est, droite, gauche, je suis équilibré maintenant.
Mais le problème, c'est qu'on parlait de tracé tout à l'heure. C'est un tracé qui est excessivement exigeant physiquement. Il n'y a pas de ligne droite pour se reposer au Sachsenring. C'est que des enfilades rapides, des descentes où on est souvent en apnée. Hein, c'est ça le problème. Donc, réussir à s'oxygéner quand on commence à avoir des problèmes de bras. Ce qu'a eu Zarco d'ailleurs au dernier Grand Prix. Donc, essayer de rouler relâché, c'est pas évident avec ces motos comme le disait Jean-Luc, ils font 300 chevaux. Donc voilà, il va être là, de toute façon, il est ultra rapide. Il a que 20 ans, hein, lui. C'est exceptionnel ce qu'il est en train de réaliser. Et si vous regardez, il faut toujours comparer avec ce qui est comparable. Les autres pilotes Yamaha, il les domine la plupart du temps. Donc ça, c'est bon.
Jean-Luc, il le rappelait, Philippe, il n'a que 20 ans, Fabio Quartararo. On sait qu'il y aura une victoire un jour ou l'autre, mais la question, c'est de savoir juste, en fait, quand.
Bah, écoute, oui, il est né donc le 20 avril 99. Voilà, je regardais mes petites tablettes, c'est absolument incroyable. Et puis surtout, c'est un talent naturel. Il a trouvé la moto pour s'exprimer, l'équipe pour s'exprimer. Et puis la référence, comme l'évoquait Philippe, ce sont bien sûr les machines officielles. Alors si Maverick Viñales, l'Espagnol, est parvenu à tirer un peu son épingle du jeu, il sera lui aussi sur la première ligne de la grille de départ, à ses côtés. Et ben, Fabio l'a devancé un tout petit peu, hein, de 6 millièmes. C'est pas beaucoup, mais bon, psychologiquement, c'est important. Et puis surtout, Valentino Rossi, lui, est très très loin. Il est au milieu de la quatrième ligne.
Il a chuté
le nonuple, voilà, champion du monde, qui court après son dixième titre. Et c'est vrai que là, eh bien, finalement, au classement général provisoire du championnat, tiens-toi bien, qui aurait parié là-dessus ? Valentino Rossi, donc, après le Grand Prix de Hollande, est cinquième avec 72 points. Fabio Quartararo, sixième, juste derrière avec 67 points. C'est absolument incroyable.
C'est la saison de trop.
Oui, vas-y, mais Philippe. Résultat blanc pour Rossi, ouais, hein, ouais. Trois chutes. Ah, donc, ouais, trois c'est chutes. Une saison qui c'est la qui saison est quand trop. Même pas terrible.
C'est la saison de trop pour Rossi, Philippe, selon toi ?
Non, c'est qui peut remplacer d'abord au niveau de l'aura, de tout ça, c'est irremplaçable quand il est Rossi. Il est quand même là, mine de rien, souvent.
Deux podiums, deux fois deuxième en début de saison.
Hein, la saison de trop, s'il veut être champion du monde, moi, à mon avis, c'est
fini. Il n'a pas été champion depuis moins de 10 ans. Hein.
Mais lui, il prend toujours du plaisir, il est toujours dans le coup, quand même. Hein, c'est les meilleurs pilotes du monde, là, dont on parle. Donc, vous voyez qu'il a sa place, Valentino Rossi. Donc, c'est pas une saison de trop. C'est lui.
Il est devant Viñales, hein.
Qui va juger. C'est le meilleur pilote Yamaha depuis le début de la saison, même s'il a un peu de mal et que c'est plus le Valentino flamboyant qu'on a connu.
Bon, on a parlé de Marquez, on a parlé de Quartararo, on a parlé de Rossi, il faut parler de Johan Zarco. Sur sa KTM, il a raté les qualifs. L'autre Français présent en MotoGP ne partira qu'en... Oula, il faut prendre du temps pour le trouver. 19e position.
7e.
Et ouais. Il s'est de nouveau fait dominer par son coéquipier espagnol Espargaro. Grosse déception pour Johan Zarco, Philippe.
Et il est tombé, hein, tout à l'heure au warm-up aussi. Ouais. Donc ça, c'est pas bon. Il tombe beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il est pas du tout en confiance, on le voit, hein, complètement miné, renfermé. Il est replié sur lui-même. Parce que nous, on avait quand même un gros doute l'année dernière. Quand on nous parlait du choix, on lui avait offert quand même la moto de Quartararo. Il aurait pu l'avoir. Il avait aussi la possibilité d'aller chez Honda.
Il a signé
très, très tôt. Avec KTM, en se disant ça va être un projet fantastique. Mais c'est vrai que KTM a gagné dans beaucoup de championnats, mais là on est en MotoGP. Les Japonais sont très difficiles à battre. Regardez Ducati, où il y a quand même Audi derrière, il y a tout ça, et c'est difficile aussi pour eux cette année. Donc Zarco, il a du mal à s'habituer à cette moto. Elle n'est pas dans son style de pilotage, qui est un style assez coulé, contrairement à Espargaro. Donc il a beaucoup de mal. Et puis le mental, Jean-Luc le sait, en moto c'est essentiel. Et là il a pas vraiment. C'est pas beau fixe. Quoi. C'est très compliqué pour lui.
Jean-Luc, un petit mot sur Zarco et ensuite je vous demanderai vos pronos. Il nous reste 2 minutes pour conclure sur ce Grand Prix d'Allemagne qui s'élancera dans 20 minutes pile.
Ben écoute, ça nous fait à tous beaucoup de peine, vraiment, et je sais que Philippe aussi, parce qu'on aime beaucoup Johann Zarco, quand même le double champion du monde en Moto 2. Il n'a pas perdu son pilotage, c'est impossible. Il était dans les meilleurs l'an dernier sur cette machine privée, cette Yamaha au sein de l'équipe Tech 3. Alors c'est vrai que là, c'est bon, je vais oser le dire maintenant. Allez, même si on parie sur la durée, on sait qu'il a signé pour 2 ans. A priori, il sera là encore la saison prochaine. Enfin, si tout le monde le veut bien, si lui le veut et si KTM le veut. Mais bon, là, c'est pas possible de le voir derrière, tiens-toi bien, son équipier de l'an dernier affiche Ciarine, c'est pas méchant, mais qui a une KTM privée qui est devant lui sur la grille, c'est quasiment une humiliation. Philippe parlait de Paul Espargaro, lui il a signé le 8e temps. Alors certes, en temps, c'est pas énorme, il y a 6 dixièmes de seconde entre les deux, mais à moto c'est énorme, c'est un gouffre, 6 dixièmes de seconde, la preuve, il y a 4 lignes de la grille de départ. Donc c'est vrai que c'est un chemin de croix qu'est en train de vivre Johan. Et puis il parlait de technique et il a raison, ils ont un châssis sans être trop trop technique quand même, qui est totalement différent de celui des machines japonaises. Et puis on n'arrive pas à faire évoluer la moto et les réglages dans le sens que souhaite Johan, qui lui a un pilotage très pur, très fin, un petit peu comme celui tient de Jorge Lorenzo. Et d'ailleurs, le parallèle est important, puisque Lorenzo a hérité de la deuxième Honda et lui aussi a un petit peu de mal à la faire fonctionner, à la différence de Marquez. Voilà pour Johan. On espère de tout cœur, mais vraiment de tout cœur, qu'il va redresser la barre. Son talent est toujours là. Voilà.
Allez, il nous reste 30 secondes, messieurs. Philippe Monneray, le prono pour ce Grand Prix d'Allemagne. Marc Marquez favori selon toi. Et comment tu vois la course et le classement de Quartararo en fin de course?
Alors Quartararo, tout dépend de son bras et de son épaule. Autrement, il peut aller chercher un podium. Ça va être difficile, mais il peut aller chercher une troisième place. Et puis, Vignales semble avoir progresser quand même en début de course pour ses départs, pour ses débuts de course, ses premiers tours, donc pourquoi pas aussi un podium pour
Marquez, Vignales, Quartararo,
le pilote Yamaha.
Allez, voilà. On va dire ça comme ça, ou alors Quartararo deuxième, on prend aussi. Jean-Luc, ton prono?
Écoute, je pense aussi, compte tenu de ses blessures sur la durée de la course, et c'est un circuit très exigeant, je pense que Fabio, il faut qu'il vise le podium. Voilà, là, il faut qu'il prenne des gros points à nouveau. La victoire, elle va venir, mais peut-être pas là. Et alors effectivement, il y a Vignales qui est sur une belle dynamique, parce que c'est lui qui a remporté le dernier Grand Prix, hein. Il faut quand même le rappeler, c'était en Hollande. C'est un circuit un peu similaire, il n'est pas vallonné, le Sachsenring, mais qui ne laisse pas de répit. Et moi, je pense que faire un pari sur Vignales, qui a tout à gagner et pas grand-chose à perdre, et Marquez, lui, il joue le championnat aussi. S'il voit que Vignales est trop fort, il finira. Allez, ben oui, le podium, ça va être difficile de le changer. Mais l'ordre, moi, je vois bien une victoire de Vignales.
Alors, tu rappelais la date de naissance tout à l'heure de Fabio Quartararo, 20 avril 99. Il avait 5 mois lors de la dernière victoire d'un Français en MotoGP. Ouais. C'était le 9 septembre 99. C'était Régis Laconi du côté de Valence. Voilà pour ce qui est de la petite anecdote. 5 mois. Française, donc, ouais. Autant dire qu'il ne s'en souvient pas vraiment.
De temps.
Comment, Philippe?
C'était des 500 encore à l'époque.
Ah oui,
400 de temps.
Voilà, c'était il y a 20 ans et on attend donc depuis 20 ans une victoire française. Philippe Monneray, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On te souhaite un bon dimanche.
Merci.
Jean-Luc, tu restes avec nous dans un instant. Radio Paddock, on va faire le tour de l'actu et on va parler des résultats moto 2 et 3 en Allemagne avec Benoît Boutron. A tout de suite.
RMC Motors. RMC 13h-14h Motors.
Avec Jean-Luc Roy. Jean-Luc, toujours là jusqu'à 14h. C'est la dernière ligne droite, Jean-Luc, hein, de ce Motors. Dans 15 minutes, on le rappelle, départ du Grand Prix d'Allemagne. On va rappeler dans un instant la grille avec Benoît Boutron qui nous a rejoint pour Radio Paddock. Jingle.
RMC Motors.
World Champion! Oh my god! I can't believe it! Thank you so much, guys!
Radio Paddock.
Can't believe it, il est là Benoît, comment ça va?
Salut Julien, ça va? Salut le King. Salut à tous.
Salut Benoît. Alors, salut
Benoît,
papa.
On va commencer par le résultat des courses Moto 2 et 3 en Allemagne. En Moto 2, c'est Alex Marquez, le frère de Marc, qui partait en pôle.
Et alors, on aura peut-être un doublé Marquez au Sachsenring cet après-midi, puisqu'il a gagné, Alex Marquez. Il est parti en pôle, on a eu une super course Moto 2, je suis sûr que ça t'a pas échappé Jean-Luc.
Oh non.
Quelques dépassements, il a quand même bien géré son effort, Alex Marquez, et il parvient à s'imposer, à prendre les commandes du championnat. C'est quand même une belle saison qu'il réalise, puisque c'est sa quatrième victoire en 5 courses. Alex Marquez, qui est la référence de cette catégorie, en fait, Jean-Luc.
Côte, oui, on a l'impression qu'il a trouvé le tempo, là, le petit frère de Marc. Ils ont des personnalités différentes, on les compare toujours. Le papa est là, et d'ailleurs, ça doit être terrible pour lui, hein, de vivre comme ça, ses deux fils dans deux catégories de pointe. Ah, c'est vrai qu'Alex, il lui manquait un tout petit quelque chose jusqu'à la saison dernière. Peut-être l'a-t-il trouvé, parce que on rappelle que les machines sont très similaires en Moto 2. Il y a moins de différences qu'en Moto GP, au plan technique. Donc, tout est dans la mise au point et évidemment dans le pilotage, et là comme tu le soulignais, je pense qu'il est sur une très bonne dynamique. Alors évidemment, on rêverait un jour de voir les deux frères sur une grille de départ en MotoGP. Je pense que si évidemment il parvient à décrocher un titre, c'est la porte ouverte peut-être pour le MotoGP, mais bon, la route est encore longue, hein. Ouais. On sait que en Moto2, on a vu aussi les manœuvres, on a vu les chutes de pas mal de pilotes sans gravité, heureusement, mais ce circuit est extrêmement piégeux. Non, il est sur une très bonne dynamique, et c'est vrai que c'est là actuellement, c'est l'homme fort du championnat, c'est clair.
On va parler de Moto 3 aussi avec Benoît Boutron. Il y a un Japonais qui partait en pôle, ce qui n'était pas arrivé depuis 2003.
C'est vrai, mais bon, ça ne l'a pas aidé à gagner, hein, malheureusement pour lui. Ce n'est pas lui qui s'est imposé. On a eu une belle course là aussi en Moto 3 avec la victoire de Lorenzo Dalla Porta. Il a devancé son coéquipier Marcos Ramirez et Aaron Canet. C'est plutôt ça, en fait, Julien, Jean-Luc, l'événement de cette course. Effectivement, on avait un Japonais en pôle, mais la performance d'Aaron Canet qui part 22 et qui termine quand même troisième, c'était une remontée fantastique, hein, Jean-Luc. C'était une belle course Moto 3, encore une fois.
écoute, le mot est galvaudé, maintenant la fameuse remontada.
Oui.
Mais
ah oui, non.
Bah, là, oui, bah là, elle s'impose, parce que là, oui, quand non, même. Quand,
pour vous
quand
donner un ordre d'idée, il était 15e à 5 tours de l'arrivée, quand même. Pas mal. Ah bah il finit 3e.
Non, c'est fabuleux. Et écoute, bah, à moto, on peut dépasser, on le dit, on le répète, eh évidemment, oui. C'est la machine qui le permet.
Ah, ça te change, ça, Jean-Luc. Hein.
Pardon ?
Ça te change les dépassements comme ça. Hein.
Ah ben écoute, on a eu un très beau Grand Prix d'Autriche. Alors là, ouais, maintenant, on va regarder celui-là en référence, si tu veux bien.
Ouais, Jean-Luc, c'est quoi la plus grande remontée que t'aies jamais vue en moto, la remontée référence, la plus dingue de l'histoire ?
Oh là, écoute, alors là, à la volée, tu me poses une colle. Mais dès qu'un pilote majeur, moi, j'ai le souvenir de courses magnifiques de Michael Doohan, ça remonte assez loin, de Kevin Schwantz, tu vois, de Wayne Rainey. Enfin, c'était une autre époque. Hein. C'est vrai que les circonstances étaient totalement différentes. Et puis, encore une fois, les circuits étaient beaucoup plus dangereux à l'époque. Donc, malheureusement, j'allais dire, il y avait une élimination naturelle. Là, ce qui est fabuleux, c'est que en Moto 3, j'allais dire en 125, mais c'est la catégorie qui a remplacé, voilà. On a des courses en paquet généralement où on joue beaucoup à l'aspiration, mais comme là il n'y a pas beaucoup de ligne droite, bah écoute, c'est le gros cœur du pilote qui compte, et puis les trajectoires sont quasi uniques. Alors c'est fabuleux ce qu'il a fait là, on peut dire Aaron Canet, c'est vraiment une remontée incroyable. Bon, c'est l'un des hommes
de
forts du championnat aussi.
Ouais. Jean-Luc, Julien, c'était pas l'événement du week-end. L'événement, c'était quoi? C'était ça.
Oui.
La moto électrique. Eh oui, ça y est, elle arrive.
C'est ça. Ça c'est. Voilà. T'as été mettre ton micro pour.
Ah, c'est un bruit d'aspirateur. Voilà. C'est pour vous donner une idée.
On croirait un ramasse-miettes électrique. Voilà, pour nettoyer la nappe.
Ça y est.
Les miettes de pain.
On y est arrivé. On en a beaucoup parlé depuis le début de la saison d'un moto.
Ça sort d'où ce son là?
Non, c'était une petite blague, évidemment.
Ah oui, d'accord.
Jean-Luc, quand même pas.
Jean-Luc est très fan de l'électrique. Hein, tu dois le savoir. D'ailleurs, mon petit Julien. Et il a pris son abonnement.
J'adore.
Voilà. Et t'as pris ton abonnement pour la trottinette électrique à Paris, apparemment. Je te félicite. Jean-Luc.
Oui, alors c'est quoi le critère, c'est ça? Moi je suis critère V12 ou V8, hein, il faut le rappeler, c'est un peu différent.
Exactement, donc pour revenir à la moto électrique, c'était le premier Grand Prix de l'histoire aujourd'hui avec la victoire du Finlandais Niki Tuli, c'était en Allemagne en fait, ça s'est déroulé entre les courses. Et ce qui est assez drôle finalement, c'est qu'on avait prévu 8 tours, parce que vous savez l'autonomie est assez réduite, finalement on n'en a eu que 5, donc il y a eu moins de 20 km, parce qu'il y a eu un problème avec l'une des barrières de sécurité gonflable. Il y a eu un léger accident, donc victoire, on le retiendra ça pour l'histoire, de Niki Tuli, le Finlandais, devant Bradley Smith, et troisième place pour un Français, Mike Di Meglio. Et si vous vous demandez à quelle allure ça roule ces petites machines électriques, et bien la moyenne du vainqueur, c'était un peu plus de 147 km/h.
Ah oui,
bon, ça reste honnête, Jean-Luc, pour une moto électrique.
Comme nous en ville, Jean-Luc, à peu près.
Ouais, c'est ça.
À une autre époque, alors on va dire ça comme ça. Non, écoute, ce qu'il faut dire, c'est que ces machines sont très très lourdes, vraiment très lourdes, et que les pilotes ont beaucoup de mal à les emmener, parce que là aussi, le poids des batteries est terrible. Et pourtant, on réduit, c'est presque ridicule, à une course sur 20 tours, faut être clair, ça. Sur 20 kilomètres, pardonne-moi, 20 tours, ce serait formidable. Non, sur 20 kilomètres, ça ressemble pas à grand chose. Maintenant, c'est vrai qu'on va progresser, c'est ce qu'on nous dit toujours pour la formule électrique, bien sûr qu'on va y arriver à trouver de la performance, mais là en plus on peut comparer directement avec les autres machines, les normales, et on s'aperçoit que malgré le talent des pilotes et leur implication, il y a Randy Depugnier qui roule également, mais qui s'était blessé.
Bien sûr,
il s'était mis deux grosses boîtes lui aussi en début de saison. Et puis on rappelle ce que tu disais, je vais pas ironiser là-dessus, hein, mais il y a eu un court jus incroyable lors des premiers essais, c'est-à-dire que tout a cramé, toutes les machines avaient brûlé.
En Espagne.
Et voilà, c'est la raison pour laquelle on a dû différer le départ de cette saison-là. Alors espérons qu'il n'y ait pas de court jus dans le championnat, ça vous va comme sortie?
Ouais, bravo.
bravo Jean-Luc.
Et puis on rappelle la grille du MotoGP.
La grille c'est
plus important.
Ça débute dans 8 minutes.
Exactement, avec, donc vous en parliez, la pole de Marc Marquez, c'est l'homme invincible, évidemment, sur ce Grand Prix du Sachsenring depuis 2013, toutes catégories confondues. Il est toujours en pôle. Il a brisé le record du circuit hier en 1:20:215. Il remporte cette course chaque année depuis 2013. Deuxième place pour Fabio Quartararo, qui d'un côté a eu le syndrome des loges à la main droite et qui s'est disloqué l'épaule gauche. Quand même,
les deux côtés, équilibré.
C'est quand même sans chuter.
Un sacré bonhomme, ce Fabio Quartararo, le Français qu'on suivra avec beaucoup d'attention. Maverick Vinales complète la première ligne. Rins, Miller et Crutchlow en deuxième ligne. Morbidelli, Espargaro, Joan Mir en troisième ligne. On va quand même rappeler la performance moyenne de Valentino Rossi, qui lui partira 11e. Les très mauvaises performances, ça l'info du week-end des deux Ducati, Danilo Petrucci et Andrea Dovizioso. Petrucci qui fait 12 et qui a même chuté en qualification. Ouais. Dovizioso, lui, n'a même pas passé la Q1, ce qui est quand même assez rare pour une telle moto.
Il partira 13e.
Voilà, exactement. Ouais. Et puis, malheureusement, vous en parliez également, la mauvaise perf de Johan Zarco, il partira 19e. Et en plus, il s'est fait peur ce matin puisqu'il a chuté au warm-up.
Bon, Jean-Luc, on l'a évoqué en long et en large. Je ne sais pas si tu veux rajouter encore un petit mot là sur cette grille de départ.
Ben écoute, juste un mot pour dire, on parlait des Ducati, c'est Jack Miller, paradoxalement, le pilote privé, hein, qui est lui au milieu de la deuxième ligne et qui fait mieux que les Ducati officiels de Petrucci et de Dovizioso. Je dirais juste un petit mot, et c'est pas du tout une critique à l'encontre de Petrucci ou de Dovi en l'occurrence, mais comme c'est un circuit où le moteur compte un peu moins puisqu'il n'y a pas de grande ligne droite, c'est surtout de la finesse de pilotage, de l'enchaînement, du réglage, ben peut-être elles sont un peu brutales à emmener, ces Ducati officiels de Petrucci et de Dovizioso. Je pense que là, une nouvelle fois, c'est pas leur talent. Ils sont pas devenus mauvais d'un seul coup. Donc, je crois que la course risque d'être longue pour eux, surtout s'ils dégradent les pneus. Même si on rappelle que Marquez, lui, c'est sur eux qui s'étalonne, hein, puisque au championnat, 160 points pour Marquez, 116 pour Dovizioso, 108 pour Petrucci. Ensuite, c'est Rins avec 101. Donc, Marquez, je pense qu'il va contrôler, comme on l'évoquait tout à l'heure.
Allez, 13h53. Il reste encore 4 minutes de Motors avant de passer la main à Christophe Cessieux pour le cyclisme et le Tour de France. Les dernières nouvelles de la F1. Benoît Boutron va commencer par le projet de Grand Prix à Londres qui semble menacer Silverstone.
Et oui, c'est inquiétant pour le Grand Prix de Silverstone. Effectivement, on suivra ce Grand Prix la semaine prochaine sur RMC. On rappelle que normalement c'est la dernière saison puisqu'il y a eu des négociations et apparemment on va courir donc cette année, c'est sûr, mais la saison prochaine la question se pose pour le Grand Prix de Silverstone. Et c'est vrai que la rumeur est de plus en plus persistante pour un Grand Prix à Londres. Alors ça ne serait pas dans le centre-ville de Londres, ça serait dans le Grand Londres, à l'est de Londres.
Dans le centre-ville de Londres, c'est un peu...
Non, ce serait trop compliqué.
Non, c'est impossible.
Ce qui alimente la rumeur, c'est que Liberty Media a confirmé qu'il y avait des discussions. Le maire de Londres, Sadiq Khan, lui a fait savoir que ce projet pourrait être possible. Le problème qui se pose, en fait, c'est qu'il y a moins de 200 km entre Londres et Silverstone. Et quand on sait que c'est compliqué de trouver une date en Formule 1, avoir deux Grands Prix à moins de 200 km d'écart,
Il faut choisir, mais
ça paraît impossible.
Jean-Luc, ce serait une révolution quand même.
Bah écoute, ce serait extrêmement regrettable. Moi, je me mouille, tu sais, comme d'habitude. Ce serait absolument lamentable, même, j'utilise les mots qui conviennent, parce que ce tracé de Silverstone, il a su évoluer. Hein, c'est la référence en matière de sport automobile, de sport mécanique même, et de Formule 1. C'est là que le premier Grand Prix s'est déroulé en 1950, je le rappelle. C'est un ancien aérodrome, mais qui a tellement évolué. Ce circuit, il appartient au BRDC, le British Racing Drivers Club, avec l'accent. Donc, ce sont des structures un petit peu anciennes, mais là aussi, on a su trouver les millions et les dizaines de millions nécessaires pour le faire évoluer. Alors partir faire du show à Londres, où la course aurait lieu un an, deux ans, trois ans, puis après changement de municipalité, on partirait ailleurs. D'ailleurs, Lewis Hamilton lui-même, britannique, faut-il le rappeler, 5 fois champion du monde, a déjà dit que ce serait aussi regrettable. Il n'a pas osé dire lamentable, mais c'est ce qu'il pensait vraiment. Hein, ce serait lamentable.
Voilà. Justement, Jean-Luc, tu parles de Lewis Hamilton. On parlait du règlement tout à l'heure, hein, avec toi, Jean-Luc. Lewis Hamilton, on sait qu'il y a un nouveau règlement en ce moment qui est en projet.
Il devait sortir au mois de juin et finalement ça a été repoussé en octobre, effectivement.
Et il s'investit dans les discussions.
Et oui, c'est bien, c'est qu'il a été invité, effectivement, c'est l'info à retenir. Lewis Hamilton a participé aux discussions qui se sont déroulées à Paris avec un autre pilote, Nico Hülkenberg. Il y avait également le directeur du GPDA, Alexander Wurz. On discute évidemment, nouveau règlement, on veut réduire les coûts, on veut voir comment on va s'adapter à l'aérodynamisme. Et Lewis Hamilton a donc assisté à ces discussions. C'est une bonne nouvelle pour la Formule 1, Jean-Luc. Après, il faut aussi voir que chacun va défendre ses intérêts. Mercedes a pas forcément intérêt à ce que les budgets soient limités et qu'on réduise leur recherche de performance. C'est ça aussi qu'on peut se demander, Jean-Luc.
Bien sûr, ça, tout l'aspect financier qui pèse tellement lourdement, trop lourdement, de plus en plus lourdement sur la Formule 1, c'est ce qu'il faut écarter. La voix des pilotes, il faut toujours l'écouter, évidemment. C'est quand même eux, on l'évoquait avec Jean-Pierre Jabouille, avec Philippe Monneret tout à l'heure, c'est quand même eux qui pratiquent leur sport, qui prennent les risques et qui mènent les engins, en l'occurrence les monoplaces. Que demandent les pilotes? Ils demandent de la bagarre, ils demandent de belles victoires, ils demandent du sport avant tout, parce que s'ils pratiquent la Formule 1, c'est parce qu'ils aiment ce sport-là, par-dessus tout et pour tout. Et comme l'a évoqué Verstappen, quand on lui a parlé évidemment de sanctions, il a dit, mais écoutez, si on peut pas faire ce que j'ai fait là pour prendre la tête, bah autant rester chez soi. Mmh. Et le problème de la Formule 1, ça commence à être ça, c'est que si ça continue à aller dans la mauvaise direction, bah je pense, il y aura toujours des pilotes, hein, mais le problème, c'est que ce sera plus vraiment des critères sportifs, si vous voyez ce que je veux dire, qui vont présider au choix des pilotes, ce sera les critères de nationalité, de... Voilà. Bon, écoute, espérons que là aussi, il faut sauver le soldat F1, je le répéterai jusqu'au bout.
On en reparlera évidemment dans Motors, de tout cela dans les prochains Motors. Rendez-vous dimanche prochain, Jean-Luc. Bonne journée à toi.
Oui, c'était un plaisir. Salut Julien.
On se retrouve dimanche prochain pour un prochain numéro de Motors. Benoît Boutron, merci beaucoup pour ce Radio Paddock. On va passer la main à Christophe Cessieux. Bonjour Christophe.
Salut Julien, comment ça va?
Ah bah super, deuxième étape du Tour de France. Moi je reprends la main juste après. Parce que quel après-midi de sport encore sur RMC. À partir de 17h, il y aura la finale de la Coupe du Monde. Bon après-midi cyclisme.
RMC Football. Samedi 4 mai à 15h au stade de la Mosson à Montpellier, c'est la finale de la Coupe de France féminine. Le Paris Saint-Germain affronte le FC Fleury 91 pour un match au sommet. Qui décrochera le titre? Réservez vos places sur billetterie.fff.fr. PSG Fleury. Finale de la Coupe de France féminine le 4 mai à Montpellier avec RMC.